Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des notes assez denses sur la thermodynamique.
Oui, bonjour.
Et plus spécifiquement, on va s'attaquer au premier principe. J'ai sous les yeux des termes comme chaleur, énergie interne, travail.
Mm-hmm.
Et puis toutes ces transformations bizarres, isobare, isocore, adiabatique aussi, et les changements d'état.
C'est ça.
L'objectif, si j'ai bien compris, c'est de démystifier un peu tout ça, de voir comment l'énergie circule là-dedans.
Exactement. L'idée, c'est vraiment de poser les bases. Ce premier principe, en fait, c'est un peu la règle du jeu de l'énergie dans ces systèmes thermiques. Il nous dit juste, l'énergie, elle se perd pas, elle fait que changer de forme.
D'accord. Bon, alors allons-y. Le cœur du sujet, ça a l'air d'être cette équation, Q égale delta U plus L. Vous pouvez nous la décortiquer un peu, genre, simplement, par exemple. OK.
Si vous lui donnez de la chaleur, qu'on note Q, cette énergie, elle doit bien aller quelque part.
Logique.
Voilà. Soit elle fait augmenter ce qu'on appelle l'énergie interne du système, ça c'est le delta U. En gros, c'est l'énergie stockée à l'intérieur, l'agitation des molécules, tout ça.
D'accord, l'agitation.
Soit le système utilise cette énergie pour faire quelque chose, pour produire un travail, L, comme pousser le piston par exemple.
Ah oui?
Ou alors un mélange des deux. Et l'équation, elle dit juste ça. La chaleur que tu donnes, Q, c'est égal à ce qui est stocké en plus, delta U, plus ce qui est dépensé en travail, L. Q égale delta U plus L. C'est la conservation de l'énergie, mais appliquée à la thermo.
Et cette énergie interne, le delta U, là, c'est pas juste un concept abstrait, alors?
C'est vraiment lié à ce qui se passe au niveau microscopique.
Les petites molécules qui bougent?
Exactement. C'est ça qui est fascinant. L'énergie interne, delta U, c'est la somme de toute l'énergie cinétique. L'agitation, le mouvement des molécules, l'agitation thermique et aussi l'énergie potentielle due aux forces entre elles.
D'accord.
Pour un gaz parfait, pour simplifier, on oublie souvent les forces entre molécules. Du coup, l'énergie interne dépend surtout de la température. Plus il fait chaud, plus ça s'agite, plus delta U est grande.
Mmh.
Il y a même ce théorème d'équipartition qui dit, en gros, que cette énergie a tendance à se répartir équitablement entre toutes les façons possibles pour les molécules de bouger, de tourner, de vibrer. C'est le lien direct entre le chaud-froid qu'on ressent et ce qui se passe à l'échelle atomique.
Super intéressant. Alors, les notes mentionnaient aussi différentes transformations. Isocore, volume constant, isobare, pression constante, isotherme, température constante et adiabatique, sans échange de chaleur. Comment le principe Q égale delta U plus L s'applique dans ces cas-là? Ça doit simplifier les calculs, j'imagine.
Tout à fait. C'est exactement ça. Chaque condition, chaque type de transformation va imposer une contrainte sur Q, delta U ou L et donc simplifier l'équation.
Par exemple?
Prenez la transformation isocore. Isocore, ça veut dire volume constant. Si le volume ne bouge pas, le système ne peut pas pousser ou être poussé. Donc, il n'y a pas de travail échangé avec l'extérieur. L égale 0.
Ah oui, logique.
Donc, l'équation devient Q égale delta U. Toute la chaleur qu'on fournit sert juste à augmenter l'énergie interne, à chauffer le gaz si on veut.
D'accord. Et pour l'adiabatique, celle sans chaleur?
Alors, adiabatique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur. Q égale 0. C'est comme si le système était dans une bouteille thermos parfaite.
OK.
Là, l'équation Q égale delta U plus L devient 0 égale delta U plus L. Autrement dit, delta U égale moins L. Si le système fournit du travail, L positif, par exemple en se détendant, son énergie interne doit diminuer, delta U négatif.
Il se refroidit.
Exactement. C'est pour ça qu'une cartouche de gaz comprimée, quand on libère le gaz rapidement, elle devient très froide. Le gaz travaille en se détendant, mais sans recevoir de chaleur, donc son énergie interne chute, sa température baisse.
Ah, c'est donc ça?
Oui. Et puis on a aussi les processus cycliques, très importants pour les moteurs. Là, on fait subir une série de transformations au système, mais à la fin, il revient exactement à son état de départ.
Donc delta U égale 0 sur un cycle complet.
Précisément. Et si delta U égale 0, alors Q égale L. Ça veut dire que sur un cycle entier, toute la chaleur nette absorbée par le système est convertie en travail net fourni par le système. C'est le principe de base d'un moteur thermique.
D'accord, je vois. Donc ce principe relie chaleur, travail, énergie interne, mais cette chaleur Q, concrètement, comment elle passe d'un endroit à l'autre? Les notes parlaient de conduction, convection et...
Rayonnement. C'est ça.
C'est exactement ça. Ce sont les trois façons dont la chaleur peut se propager. Trois mécanismes de transfert thermique.
OK. La conduction, c'est le transfert par contact direct, de proche en proche. Imaginez une barre de métal. Vous chauffez une extrémité, la chaleur se propage petit à petit le long de la barre, sans que la matière elle-même ne se déplace en masse. C'est lié au coefficient de conductibilité thermique du matériau.
Mmh. Le métal conduit bien, le bois moins bien.
Voilà. Ensuite, la convection. Là, c'est différent. C'est le fluide lui-même, un liquide ou un gaz, qui se déplace en transportant la chaleur avec lui.
Comme l'eau dans une casserole.
Parfait exemple. L'eau chaude en bas, moins dense, monte. L'eau froide en haut, descend. Ça crée des courants convectifs qui brassent la chaleur. C'est super important en météo aussi, avec les mouvements de l'air.
D'accord. Et le dernier, le rayonnement.
Le rayonnement, ou irradiamento en italien dans certaines notes apparemment, c'est encore autre chose. C'est un transfert d'énergie par onde électromagnétique, comme la lumière visible ou les infrarouges. Ça n'a pas besoin de support matériel pour se propager.
Ah, comme la chaleur du soleil.
Exactement. La chaleur du soleil nous arrive à travers le vide de l'espace par rayonnement. Tous les corps émettent du rayonnement en fonction de leur température. C'est décrit par la loi de Stefan Boltzmann, par exemple.
Fascinant. Donc, si je tente de résumer, ce premier principe, c'est une sorte de grande loi de comptabilité pour l'énergie thermique. Elle dit que l'énergie totale se conserve, mais qu'elle peut changer de forme. Chaleur échangée, travail effectué ou variation de l'énergie interne, cette agitation microscopique.
C'est une très bonne synthèse, oui.
Et toutes ces transformations spécifiques, comme isochore ou adiabatique, et les modes de transfert, comme la conduction, ce sont juste des cas particuliers, des applications de cette grande règle.
Ça relie plein de choses mentionnées dans les sources, j'ai l'impression. Des moteurs au changement d'état comme la fusion, l'équilibre liquide-vapeur. C'est tout à fait ça. C'est la beauté de ce principe. Il est incroyablement général et il sous-tend une quantité phénoménale de phénomènes. De la machine à vapeur à la formation des nuages, en passant par le fonctionnement de notre propre corps, d'une certaine manière. Il connecte vraiment le monde microscopique, l'agitation des atomes, au processus macroscopique qu'on observe tous les jours. D'ailleurs, les notes mentionnent aussi le concept de transformation réversible. Ce sont des idéalisations, hein, des processus théoriques parfaits, infiniment lents, sans frottement.
Oui, des modèles en quelque sorte.
Voilà. Mais ça amène une réflexion intéressante, je trouve, pour conclure peut-être. Si le premier principe nous dit que l'énergie se conserve toujours en quantité, qu'est-ce qui fait que dans la vraie vie, où tout est irréversible, avec des frottements, des transferts de chaleur non contrôlés, on n'arrive jamais à reconvertir toute la chaleur en travail, par exemple? Pourquoi les rendements ne sont jamais de 100%?
Bonne question.
Qu'est-ce qui se perd vraiment? Ce n'est pas la quantité d'énergie, on vient de le dire, mais peut-être
sa qualité,
son utilité, sa capacité à produire du travail. Ça, c'est une porte ouverte vers le deuxième principe de la thermodynamique et la notion d'entropie. Mais c'est une autre histoire.
Une excellente question pour laisser nos auditeurs réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant.
Avec plaisir.